sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le lundi 9 mars 2009, sous la coupole de l'Institut de France à Paris, était reçue Madame Dora Bakoyannis, actuelle ministre des Affaires étrangères de la République hellénique. Elle avait été élue par 24 voix sur 25 comme membre associé étranger au fauteuil numéro 9 laissé vacant par le décès de l'illustre savant et philosophe allemand Carl Friedrich von Weizsäcker. Madame Dora Bakoyannis a rejoint ainsi la prestigieuse cohorte des associés étrangers de l'Académie des sciences morales et politiques, l'archiduc Otto de Habsbourg, Jean Starobinski, le roi Juan Carlos, Javier Pérez de Cuellar, Vaclav Havel, le cardinal Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI après son élection, le prince de Galles, Charles Maud Bunton, Roland Mortier, Ismaël Kadaré, Jean-Claude Juncker et le prince El Hassan Bin Talal. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission intégrale de cette cérémonie présidée par Jean-Claude Casanova et placée sous le signe de l'Europe. Vous entendrez d'abord M. François Théré qui accueille la nouvelle élue dont il retrace le parcours, puis Mme Dora Bakoyannis qui, selon l'usage, prononce un éloge de son prédécesseur avant de préciser quelques-unes de ses convictions pour son pays et pour l'Europe.
Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, représentant le gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier de l'Institut de France, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames et messieurs, l'Académie des sciences morales et politiques est réunie aujourd'hui pour accueillir madame Dona Bakoyannis, ministre des Affaires étrangères de la République hellénique. Madame la ministre, vous me permettrez, en vous saluant respectueusement, de saluer aussi votre père, M. Constantin Mitsotakis, ancien Premier ministre de la République hellénique, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. En des jours sombres pour la liberté, votre père, votre famille, vous-même, avez vécu à Paris. Aux heures sombres ont succédé des heures glorieuses, des drames aussi se sont produits qui ont accompagné votre vie et celle de votre famille, toujours au service de la liberté, terme et vocation que vos ancêtres les Hellènes ont apporté à l'Europe. Vous succédez dans le 9e fauteuil des membres associés de notre Académie à Carl Friedrich von Weizsäcker, illustre savant et philosophe allemand. Nous sommes heureux de vous accueillir pour des raisons qui tiennent à votre personne et à votre pays. Des liens profonds unissent cette Académie et la Grèce. Nous portons un nom tiré de Platon et dans les termes de science, de morale et de politique, on trouvera sans peine Platon qui veut que la cité, pour être bonne, soit sage, modérée, courageuse et juste. Mais la cité, composée d'hommes, est toujours, selon Platon, l'âme à trois parties, la raison, le désir et l'ardeur. L'ardeur est la partie essentielle car elle peut animer la raison et contrôler le désir. Vos compatriotes qui appartinrent à cette Académie depuis le grand Venizelos ne manquaient pas du thumos ni de science comme Politis ou comme Tsatsos ou comme Emmanuel Rodokanaki, français et grec, historien de la Renaissance qui appartint à notre compagnie au début du siècle. François Théré, notre confrère, va dire maintenant les raisons pour lesquelles nous sommes honorés et fiers de vous accueillir et qui tiennent, Madame, à votre personne. La parole est à Monsieur François Théré.
Monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, je répète, mes chers confrères, madame le ministre et chers confrères, nous pratiquons le neutre ici, comme le Mare Nostrum. Beaucoup de raisons nous poussent à vous féliciter et à vous accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant plus que vous aimez les performances et qu'en voilà une nouvelle dans votre existence, puisque vous êtes la première femme membre associée dans l'histoire de notre Académie. Les Grecs qui vous ont précédé ici sont tous des hommes. Vous êtes la première et vous aimez les performances. D'abord parce que vous avez été la première femme maire d'Athènes. Ensuite, une nouvelle performance, car j'aurai la joie de vous remettre tout à l'heure l'épée que vos amis ont fait confectionner en l'honneur de votre venue ici. Alors, parler de la Grèce, déjà, notre président a évoqué tant d'histoires de l'histoire que je m'en voudrais d'y ajouter tant d'éléments nouveaux, si ce n'est qu'il me paraît utile de traiter un peu aujourd'hui de trois questions en votre honneur, la Grèce, vos prédécesseurs et les leçons de votre aventure politique. Alors la Grèce, bien sûr, nous y voilà. Nous allons être obligés de laisser, ou plutôt avoir le plaisir de laisser l'esprit vagabonder, surtout même à travers tous ceux qui ont écrit sur la Grèce, à commencer par des poètes de notre époque ou d'une époque voisine. Et j'en citerai simplement deux pour commencer cette allocution. La première est ainsi prévue. « Quelquefois je m'assieds dans l'or du sable amer, à l'abri bleu du saule, et j'attends que revienne Ulysse, jeune éclair, la rame sur l'épaule. Je m'en vais atteindre et attendre, écouter les docteurs ondoyants et savants et chantant des soirs d'Alexandrie. D'Alexandrie, d'où Cavafi répond, « Ah, m'arrêter ici, à mon tour, contempler un peu la nature d'une mer matinale et d'un ciel sans nuages, les bleus étincelants. » Il faudrait, bien entendu, à partir de là, vous redire que nous sommes des héritiers de la Grèce et nous sommes les héritiers d'Ulysse, car c'est Ulysse qui a emporté vers l'Occident l'idée même de droit naturel, bien avant Antigone. C'est aussi toute l'histoire des Antigones successives et même des Antigones de l'exil et qui ont nourri notre culture. C'est aussi pour d'anciens écoliers qui, en France, étudient encore la langue grecque. Les souvenirs heureux quand ils avaient à traduire une version de Démosthène et leur souffrance très grande quand il s'agissait d'un texte de Lysias. Mais au moins, savaient-ils que la langue grecque nous offre des secrets inestimables, et à commencer par l'utilisation du dictionnaire Bailly, lorsque l'on voit qu'au mot psyché, le sens du mot psyché, psyché, c'est à la fois l'âme et le papillon. Et franchement, quand on y réfléchit bien à cette dualité de sens, on ne peut que se féliciter de cette coïncidence, peut-être seulement le fruit du hasard, car au fond, chez l'homme enseveli, la chrysalide présente effectivement le spectacle du tombeau, mais cette chrysalide, quand elle se défait, laisse s'en aller à l'aventure des hommes le papillon, qui est l'âme de l'homme. Mais en fait, quand même, cette évocation pourrait être un peu superficielle. Et c'est pourquoi je voudrais quand même évoquer tous les souvenirs qu'on peut avoir les uns et les autres, les souvenirs du Cap Sougnon, les souvenirs aussi de Mykrolimanos, les souvenirs d'été ou de printemps, où sans cesse la musique des paysages et des peintures, celle-là même que le Crétois chantait aussi lorsqu'il avait pris la précaution d'apporter à Athènes un code qui était rédigé en vers. La poésie fait passer le droit, la poésie fait aussi le moyen, est aussi le moyen d'assurer la mémoire des hommes dans la destinée des personnes et des êtres. Cela me conduit tout de suite à parler de vos prédécesseurs, de Venizelos, reçu en 1919 dans ces lieux, où, peu après la fin de la guerre et avant d'autres épreuves qui, dans l'histoire de la Grèce moderne, furent importantes, Venizelos, crétois lui-même aussi, de la Crète de l'Ouest, la Crète qui est intéressante aussi, même pour ceux qui aiment beaucoup aussi la Crète de l'Est et Catos Acro. Et Venizelos, je le cite, s'adressant à notre compagnie, déclara sa fidélité à nos idéaux communs en ces termes. Dans la terrible tourmente déchaînée sur le monde, j'ai toujours compris que mon pays ne devait pas rester neutre. La lutte suprême engagée entre la démocratie et l'autocratie ne pouvait le laisser indifférent. Ses meilleures traditions nationales poussaient à se ranger aux côtés de la France et de l'Angleterre. Lorsque Venizelos fut accueilli ici, alors qu'il était le premier ministre de Grèce, il était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, votre prédécesseur, madame, qui fut aussi dans cette maison, avec quelques années plus tard, un des membres associés de notre académie, c'était Nicolas Politis. La trajectoire de Nicolas Politis fut étonnante. Il aurait été finalement captivé par la France aussi et par le droit français. Il était professeur des facultés de droit. Il n'était pas enseignant-chercheur. Il n'avait pas encore attendu ce progrès fabuleux dans la pensée et le logos universitaire français. Il était professeur des facultés de droit. Il l'est resté jusqu'à la retraite et puis ensuite, Venizelos l'a récupéré. Il fait partie de ces Grecs qui viennent en France, qui repartent en Grèce et qui, comme nombre de poètes, d'ailleurs, Elitis, Séphéris, Ritsos, sont tous voulus faire du droit avant de se livrer à la poésie dans le monde contemporain. Nicolas Apolitis allait devenir un membre associé donc de notre académie. Il y remplit un rôle considérable. Alors vous voyez, d'est en ouest, puis d'ouest en est, il avait acquis la nationalité française, puis repris la nationalité grecque. Ainsi, les flux et le reflux de l'histoire ont façonné l'Europe, et la Grèce et la France sont devenues au fil des temps deux sœurs grecques, bercées par leur mère, la mer Méditerranée, qui se rénove de nos jours. Mais il faudrait peut-être, si l'on voulait élargir le tableau, aller se promener aussi du côté de cette civilisation qui figure entre les deux nôtres, la civilisation latine, et notamment à partir de Plutarque, s'il y avait un Plutarque de nos jours, il essaierait de rédiger ou de décrire ou de nous montrer les vies parallèles de Macrianis et de Garibaldi. Je ne sais pas ce que l'on pourrait en tirer, mais il nous manque un Plutarque. Et puis, dernier en date de vos devanciers ici, un philosophe, Constantin Tsatsos, élu en 1975 président de la République hellénique, juriste lui aussi, philosophe du droit, encore mieux, et qui était ensuite, 4 ans plus tard, en 1979, élu à notre académie comme associé. Et c'est lui qui, ici même, pour le 150e anniversaire de la résurrection ou de la recréation de notre académie des sciences morales et politiques, a prononcé ici même un discours mémorable. Les malheurs de votre pays, puisque j'en arrive à votre vie politique et intellectuelle, vous ont préparé au malheur, les malheurs de votre pays vous ont, dès votre jeunesse, préparé. Votre père, dont la présence a été, il y a un instant ou quelques instants, à saluer, vous a appris votre métier. Il est vrai que vous aviez connu l'exil en France et que ce métier, vous n'avez vraiment pu l'apprendre à ses côtés que plus tard, tout comme aujourd'hui, vous enseignez et vous transmettez la leçon à votre fils. Et c'est sous cet angle les difficultés qui commencèrent, l'exil dont vous avez subi les effets, non sans montrer d'ailleurs très vite et dans les premières années de votre jeunesse, votre force de caractère lorsqu'il fallait pour vous résister aux représentants de la police grecque qui voulaient savoir où était passé votre père. Vous avez résisté victorieusement. Je vous félicite amplement. La résistance aux policiers n'est jamais la plus facile des choses de ce monde. Et puis, comme vous étiez à Paris, comme tant d'autres écrivains, artistes qui avaient fui la dictature, universitaires aussi, ils furent nombreux dans les facultés de droit ou même dans les facultés de lettres et de sciences en France, vous avez pu quand même comprendre ce que pouvait être l'hospitalité, non pas à la grecque, mais à la française. Là encore, j'espère que nous nous ressemblons. Alors, vous avez terminé vos études secondaires à Paris, et puis ensuite, vous avez été continué toujours durant cette période sombre vos études universitaires à l'Université de Munich et en matière de sciences politiques et de communication. Dans ce domaine, dans cette trajectoire, il est clair qu'au fond, vous aviez su renouer cette espèce de triptyque, je ne dirais pas le triangle, mais le triptyque qu'il y avait entre la France, la Bavière et la Grèce. Alors, tout cela, bien sûr, vous savez pourquoi est-ce que je vous le redis. C'est tout simplement pour le communiquer davantage à nos confrères et aux personnes qui nous honorent de leur présence aujourd'hui et pour vous dire notre grande richesse, notre grande richesse d'accueil, nous aussi, et l'hospitalité et les félicitations que nous vous devons. Alors, revenu d'exil, en 1974, vous poursuivez vos études à l'Université d'Athènes en droit public. Or, je regrette que ce ne soit pas en droit privé, mais enfin, il ne faut pas exagérer dans ces spécialisations les plus diverses. Et vous commencez déjà à agir dans la vie politique. Vous exercez des fonctions progressivement importantes au sein du nouveau parti d'opposition, la Nouvelle Démocratie, et progressivement, vous ne cessez, dans ce cadre-là, d'exercer des fonctions éminentes. Et puis, progressivement, vous entrez encore plus dans la politique, puisque finalement, dans ce cadre même, on voit que vous vivez déjà la période postérieure au retour de la liberté. Il était normal que vous vous rendiez que dans les échanges entre nos deux pays, vous nous avez appris la démocratie, nous avons rappelé pour la liberté. Et c'est pour cela que, finalement, dans ce cadre-là, la vie politique de la Grèce entre 1974 et les années ultérieures durant lesquelles vous deviendrez ministre d'État, ministre de la Culture, et puis maintenant ministre des Affaires étrangères, après avoir été élu député, d'abord en Crète, et puis ensuite à Athènes, nous montre à quel point l'importance de votre action est de manière étonnante un modèle et un exemple pour nous. Mais mieux encore, je le rappelais tout à l'heure, vous êtes devenu maire d'Athènes. Et en tant que maire d'Athènes aussi, vous avez exercé une influence qui a été considérable. Et à tel point que votre action explique un peu le diminutif de votre prénom, paraît-il. et que l'on voit en vous aussi une nouvelle Théodora, qui représenterait encore la valeur d'une certaine impératrice de Byzance. Quoi qu'il en soit, à la mairie, vous êtes occupé aussi parallèlement des problèmes de l'égalité entre les hommes et les femmes, des problèmes aussi de la culture même d'un point de vue plus large et plus général. Et évidemment, maire d'Athènes, on ne peut pas ne pas penser au Parthénon. Et le Parthénon, tout de suite, pour nous, évoque beaucoup de choses, mais je m'en tiendrai au Parthénon illuminé. Illuminé, et bien entendu illuminé à partir d'une année faste, lorsque André Malraux est venu en 1959, au nom du gouvernement français, honorer la première manifestation des illuminations du Parthénon. Et alors, dans ces regards, ces fascinations, ces lumières entremêlées, ces mélanges du jour et de la nuit, cette fascination qu'on communique à ses enfants lorsque, au Lycabette, on leur montre le soir le Parthénon illuminé, eh bien, c'est André Malraux qui s'exprime à ce sujet en 1959 au nom du gouvernement français. Évidemment, je suis incapable d'imiter la flamme et le ton d'André Malraux, mais quand même les mots que je vais citer ici, que j'extrais de ce qu'il a appelé une oraison, c'est beaucoup dire, sont significatifs. Pour la première fois, voici surgi de cette nuit millénaire le symbole de l'Occident. Bientôt tout ceci ne sera plus qu'un spectacle quotidien, alors que cette nuit, elle, ne se renouvellera jamais. Devant ton génie arraché la nuit de la terre, salut, peuple d'Athènes, la voix inoubliée de Périclès, qui, depuis qu'elle s'est élevée ici, hante la mémoire des hommes. Signé, fin de citation, c'était à peine besoin de le dire, compte tenu de la qualité du style. Alors, de ces jeux du jour et de la nuit, vous avez su, Madame le ministre, utiliser les sortilèges. Lorsque, grâce au hasard d'une nuit obscure, cette nuit-là, il faisait sombre, on ne voyait pas les étoiles à Athènes, vous avez su, alors que vous étiez en mal de financement de vos activités athéniennes, convaincre un membre de la Commission européenne, non pas par une prière, par un serment, par un oracle, par une prophétie, par une philippique ou par un panégyrique, non, vous lui avez simplement montré quelque chose qui était encore plus miraculeux. Tout d'un coup, l'illumination subite dans cette nuit obscure de l'Acropole. C'était bien là, de votre part, montrer l'intérêt que vous attachiez à l'archéologie, en prévoyant et en proposant, mais le développement onéreux, de parcs archéologiques. Et la Crète, une fois de plus, était au rendez-vous de l'histoire. Cette terre de Crète, où Zeus savait bien ce qu'il faisait, lorsqu'il y a emmené Europe pour lui faire deux enfants, on ne parle jamais que d'un des deux, Minos, mais enfin, pour les juristes, il y a aussi Radamante, qui est un des plus premiers législateurs de l'histoire. Alors beaucoup d'Europe se sont cherchés depuis la naissance de cette légende. Celle qui se crée de nos jours explique les préoccupations que vous avez récemment exprimées dans une interview à Politique Internationale. J'ai été chercher mes sources et je vous les cite. Sur les diasporas successives qu'a connues la Grèce, pays d'émigration longtemps, mais pays plutôt d'immigration de nos jours, pays d'immigration du fait même de la dislocation du bloc soviétique, de l'éclatement de la Yougoslavie, et vous pensez, je vous cite, que le projet d'union pour la Méditerranée correspond pleinement aux priorités de la Grèce. D'ailleurs, j'ajouterais, il y a bien une union baltique qui n'a pas nuit à l'Union européenne. Et comme la mer Méditerranée est plus plaisante au rivage des îles de l'archipel et à la lumière du soleil, je ne vois pas pourquoi ce qu'a fait l'Union baltique, l'Union méditerranéenne, ne pourrait pas le faire. Et puis, vous dites si bien qu'il existe aussi des relations étroites entre la Grèce et le continent africain, Et les académiciens qui s'honorent d'être membres associés de l'Académie d'Athènes, il y en a quelques-uns ici, je les vois tout de suite, comme Sir Basil Marquesinis, qui est un de nos membres bien illustres et bien accueillis, comme s'y trouvent les uns et les autres dans la séance solennelle de ce jour, l'occasion précieuse de se rappeler ce qui est dû au dialogue qui se déroulait il y a si longtemps dans le jardin d'Académos, la première école de philosophie de l'histoire. Littérature et histoire, pour finir, je voudrais simplement m'inspirer de l'un de vos deux grands poètes, prix Nobel d'ailleurs au passage, Séphéris, bien que j'aurais pu penser aussi à Élytis qui s'appelle Élytis à cause d'Éluard, pseudonyme inspiré d'Éluard. Mais ceci, ne faisons pas de la politique tout à fait de propagande. Non, Séphéris écrit, et pourtant je prends de la prose, je choisis un morceau de prose. Chez Séphéris, il écrit la Grèce est un petit pays, mais sa tradition est immense. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle s'est transmise à nous sans interruption. La langue grecque n'a jamais cessé d'être parlée. Mais tradition, ajoute-t-il, ne signifie pas habitude. Elle intéresse au contraire par la faculté de pouvoir rompre l'habitude. Et c'est par cela qu'elle prouve sa force de vie. C'était ce que disait Séphéris en 1963 à Stockholm. Une transmission ininterrompue, qui pourrait presque conduire à procéder, à pratiquer quant à l'histoire, les divisions de la géographie et peut-être de distinguer, de transposer en matière d'histoire la distinction de l'extrême passé, du moyen passé et du proche passé, les divisions de l'Orient dans le passé de la pensée. Une transmission ininterrompue, écrit Séphéris, c'est bien pourquoi il ne faut pas se contenter du proche passé. Ni de l'extrême passé, bien que ce ne soit pas tout à fait l'extrême, mais le passé antique. Et encore que Aristote, dans sa Politique, nous a laissé une leçon qui pourrait être toujours écoutée aujourd'hui. La loi est une intelligence sans passion. Alors moi, de temps en temps, j'avoue que je me demande, par-ci, par-là, si la loi ne tendrait pas à devenir, si l'on y prenait garde, une passion sans intelligence. Ceci mériterait bien des développements, mais c'est vers le moyen passé, le Moyen-Âge, qu'il me paraît nécessaire de clôturer, de conclure cette brève allocution. Car au fond, ce que découvrent aujourd'hui les historiens, c'est que la transmission du savoir philosophique de l'Antiquité jusqu'à nos jours s'est faite grâce au Moyen-Âge. Et s'est faite grâce au Moyen-Âge directement du côté de l'Europe et pas seulement du côté de l'Afrique. Que les traductions même des œuvres d'Aristote ou de ses cours transformés en œuvres, que ces traductions ont été assurées, certes par des moines syriaques, mais aussi par les moines du Mont-Saint-Michel au XIe siècle, et que c'est aussi une donnée qui donne à penser qu'il existe donc aussi une sorte de racine, une filière ininterrompue à travers les siècles obscurs même des lendemains, des arrivées des Francs, Visigoths et d'autres, qu'il y a eu toujours une relation étroite. Et les moines du Mont-Saint-Michel, notamment au XIe et XIIe siècle, ont traduit directement les œuvres des philosophes grecs. Idée donc nouvelle, peut-être, idée de l'Europe de toujours. Et c'est à partir de cette analyse innovante, renouvelée pleinement il y a quelques mois en France, par un ouvrage célèbre, que je voudrais en quelque sorte terminer cette prosopopée. Toute récente et si innovante qu'il y a lieu aujourd'hui, suivant le titre même de ce livre, de parler des racines grecques de l'Europe chrétienne. Ces racines existent, elles méritaient peut-être d'être rappelées aujourd'hui, avant de joindre mes remerciements à ces félicitations unanimes qui émanent de tout le monde, en particulier de notre Académie, qui est très fière de vous accueillir aujourd'hui chez elle. J'en ai pas tout à fait fini, car voilà l'innovation. La remise de cette épée qui vous est adressée de la part de tous vos amis qui m'ont dit aujourd'hui, avaient, sans nous en faire part, décidé d'accompagner votre arrivée ici par ce signe même de l'épée. Qui l'emporte quand même toujours sur l'esprit, à moins que ce soit le contraire. Merci beaucoup et mes félicitations.
Merci beaucoup.
Nous remercions notre confrère. La parole est à Madame Donna Bakoyanis.
Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, mon confrère, Monsieur Terret, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord vous remercier pour les propos que vous m'avez tenus sur moi et sur mon pays. Et je voudrais vous dire combien vous me voyez aujourd'hui honoré. Et honoré, vous le voyez, ému. Honoré du privilège que vous me conférez en m'accueillant sous cette coupole comme membre associé étranger. Honoré aussi d'être la première femme à siéger à côté de personnalités et d'esprits aussi illustres. Honoré enfin de prendre place aujourd'hui sur le siège de Carl Friedrich von Weizsäcker. Lorsque cette coupole a été bâtie, le peuple grec était déjà placé sous le joug de l'Empire ottoman. Pourtant, c'était de cette partie de la péninsule balkanique qu'avaient jailli, il y a 2600 ans, les premières étincelles de la civilisation européenne. Les artistes italiens de la Renaissance copiaient les modèles de Praxitèle. Dante, lors de son voyage dans l'autre monde, s'entretient avec Démosthène et Ulysse. Pareillement, les grands penseurs français des Lumières, comme nombre des membres de cette académie, ont souhaité se placer dans la ligne de leurs ancêtres grecs. Et ici, plus qu'ailleurs, ceux-ci ont su trouver en vous leur digne héritier. Puis, à leur tour, les pensées et les idéaux du siècle des Lumières et de la Révolution française ont influencé de manière déterminante, jeté les bases du combat du peuple grec asservi pour son indépendance et préfiguré sa renaissance comme nation. Nul besoin, dans cette salle, de remonter l'histoire. Les peuples en Europe vivent depuis 50 ans une autre réalité. Lorsque je venais dans ce bâtiment, sur les longues tables de la bibliothèque Mazarine, réviser mes examens, lire les livres de mes auteurs favoris, si vous aviez dit alors à la petite exilée grecque qu'un jour elle rentrerait par la grande porte, une épée au côté, elle aurait sans doute ri du haut de ses 15 ans. C'est l'Europe elle-même qui a rendu tout ça possible. Laissez-moi vous le dire encore, car sa magie est sans doute plus aiguë chez nous en Grèce, aux marches du vieux continent, qu'en son cœur. Il ne faut cesser de célébrer la construction européenne comme l'idée la plus formidable, la plus évidente, mais aussi la plus courageuse du XXe siècle. Une idée si neuve et fragile que ses pères fondateurs n'ont parlé dans le premier temps comme au couvert. Une idée si belle et utopique qu'elle est d'abord née dans l'âme d'un poète. Et je pense bien sûr à Victor Hugo. Regardons au-delà de ces réalisations institutionnelles, économiques, sociales. Nous nous rendons compte que l'Europe doit d'abord être célébrée comme la victoire de la pensée sur les faits, comme la victoire de l'esprit sur l'instinct. L'aboutissement de 2500 ans de civilisation, l'Europe, pour paraphraser saint Augustin, l'Europe est la cité de l'esprit. C'est cette communauté d'esprit qui a rendu possible, au-delà des haines et des ressentiments et des guerres, la construction de cette cité de l'esprit qui est l'Europe. Nous en sommes ici au cœur. Cette académie en constitue l'un des piliers. Et c'est en le rattachant lui aussi à cette notion de force victorieuse de la pensée que je voudrais aujourd'hui évoquer Karl Friedrich von Weizsäcker, un des plus éminents citoyens de notre cité de l'esprit. Karl Friedrich von Weizsäcker était un grand scientifique, l'un des plus précoces et brillants de sa génération. À 26 ans seulement, dans le cadre de ses recherches sur la fusion, il met au point une formule permettant de calculer la masse d'énergie contenue dans un atome. Cette formule qui porte son nom, les étudiants de physique du monde entier l'apprennent encore aujourd'hui. En préparant ma réponse, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'un jour, au même endroit, j'espère dans le plus longtemps possible, la personne qui me succédera au siège numéro 8 dira de moi ce pourquoi je serai rappelée et aussi évidemment ce pourquoi j'aimerais être rappelée. La réponse à cette deuxième question, je me suis rendu compte assez vite, était devant moi. C'est la leçon qui m'ont laissé, qui nous a laissé, la vie, les choix, les idées et les pensées de Karl Friedrich von Weizsäcker. Scientifique parmi les philosophes, philosophe parmi les scientifiques, esprit curieux et inquiet. Karl Friedrich von Weizsäcker est l'un des derniers penseurs universels comme on a connu les Lumières européennes. Esprit chrétien aussi. Il avait 12 ans quand un soir son regard s'est perdu dans l'immensité d'une nuit étoilée. L'enfant, déjà croyant, ressent la présence de Dieu dans cet infini. Mais le jeune homme, fils aîné d'une famille de grands intellectuels et des serviteurs de l'État, sait aussi que ces objets brillants se composent de gaz et d'atomes, que leurs explosions répondent aux lois de la physique. C'est décidé, il sera autre astronome. Ses parents lui offrent un abonnement à un journal très populaire appelé Die Sterne. À travers ses lectures sur l'infiniment grand, il vient de s'intéresser à l'infiniment petit. Une rencontre à Copenhague va confirmer cet intérêt. Il a 14 ans quand son père est muté dans la capitale du Danemark. Un soir, au cours d'une soirée musicale, il rencontre une connaissance. Une connaissance de ses parents, Werner Heisenberg, le père de la physique nucléaire. Impressionné de rencontrer une de ses idoles, le jeune homme lui confie s'intéresser à l'astronomie et à la philosophie. Heisenberg lui dit alors que la philosophie, vous l'excuserez, est une activité qu'on peut le mieux pratiquer après la trentaine, lorsqu'on est plus sage, qu'il ferait mieux d'utiliser ses capacités dans la physique durant sa jeunesse. Karl Friedrich écoute celui qui deviendra son professeur et puis son ami. Après avoir vécu les malheurs de la guerre et réalisé l'importance qu'occupent les découvertes scientifiques dans la technologie militaire, Karl Friedrich von Weizsäcker se souvient des paroles de Heisenberg et comprend que le scientifique n'est que la moitié de lui-même lorsqu'il se trouve simplement enfermé dans un laboratoire. Il soutient que la science doit aussi être politique, dans le sens où elle doit prendre en considération le résultat social, économique et psychologique, et en fin de compte politique de ces découvertes. Les chercheurs doivent pouvoir non seulement promouvoir leur travail par le biais de la recherche, mais aussi assumer la responsabilité de l'usage de leurs découvertes. Et bien entendu, s'acquitter de leur obligation d'informer l'opinion commune de ces découvertes, ainsi que de leurs conséquences. C'est cette conviction qui lui a valu, en 1957, de participer avec 17 autres scientifiques allemands éminents à la légendaire Déclaration des 18 de Göttingen. Grâce à cette déclaration, l'élite des physiciens allemands a œuvré et réussi à faire échouer les projets du gouvernement de la RFA visant à prévisionner le pays en armes nucléaires tactiques, une intervention publique dont nul ne peut ignorer l'importance. Fervent défenseur du désarmement nucléaire au niveau mondial, il a donc aussi été l'un des fondateurs du mouvement pacifique dans son pays et a consacré sa vie à l'étude et à l'analyse des conséquences de la guerre dans le monde contemporain, mais aussi au développement du tiers-monde en tant que moyen de prévention des conflits futurs. Guidé par sa profonde foi chrétienne, il a dans le même temps tenté d'associer la pensée scientifique et religieuse en quêtant la main de Dieu dans les lois de la physique, et il a fini par conclure que science et religion ne sont pas des notions en contradiction, mais complémentaires et formant un tout intrinsèque. Membres distingués de l'Académie, mesdames et messieurs, en 1990, Carl Friedrich von Weizsäcker formule la nécessité d'une Weltinnenpolitik, une politique mondiale interne, une gouvernance mondiale, pour éviter l'éventualité d'une guerre nucléaire, prévenir les conflits entre les pays développés et le tiers-monde, et lutter contre les conséquences de la destruction de l'environnement. Sans doute est-il loin alors de s'imaginer combien le cours de l'histoire allait confirmer ses idées visionnaires et combien ses positions seraient d'actualité quelques années plus tard. Depuis près de 2 décennies, la notion de gouvernance mondiale est l'un des sujets principaux non seulement de la théorie des relations internationales, mais aussi de la pratique de la politique internationale de l'après-guerre froide. Une après-guerre froide qui s'est bâtie sur cet équilibre effroyable dit de la terreur. La fin de la guerre froide a entraîné la fin de cette stabilité. L'optimisme initial nous faisant penser que nous pourrions nous diriger vers un système revalorisé de sécurité collective qui consoliderait la paix et la stabilité à travers des approches collectives aux problèmes mondiaux et régionaux, a malheureusement cédé face à l'histoire. L'État monopolaire a peut-être confirmé la prédominance d'une logique souveraine, mais n'a pas produit la sécurité tant souhaitée, car les tensions régionales sous-jacentes ont trouvé un terrain pour se manifester. De nouveaux défis pour la sécurité internationale ont fait leur apparition, la résurgence du nationalisme ainsi que les fortes tendances sécessionnisme. La tendance est même la dissolution d'entités étatiques dans les régions comme l'Europe, le Sud-Est ou le Caucase. Des crises humanitaires en Afrique, en Asie, mais aussi près de nous dans les Balkans, qui sont restés irrésolus ou ont été traités de manière sélective par la communauté internationale. La prolifération des armes de destruction massive, le cauchemar du terrorisme international, la dégradation continue de l'environnement et encore le changement climatique. Mais le noir va toujours de pair avec le blanc. En même temps que ces défis à la détente sont apparus, de nouvelles opportunités, évolutions technologiques, économiques, politiques, qui ont marqué le début d'une nouvelle époque, espérons-le meilleur. Le développement économique sans précédent qui a connu le monde occidental, notamment l'émergence de nouvelles économies dynamiques, l'ouverture d'économies jusque-là fermées, au libre marché, ont créé de nouvelles conditions de progrès et de prospérité pour beaucoup de citoyens. Le progrès technologique substantiel a contribué à une nette amélioration du niveau de vie. en particulier le développement dans le domaine des flux avec l'expansion de l'Internet et de toutes les formes modernes de communication et d'information, ont aboli les différenciations et les frontières en créant de nouvelles données pour l'information, la recherche, l'éducation, la vie politique dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous vivons indéniablement dans un monde moins stable que le monde de la guerre froide. Les sources d'instabilité et d'insécurité ont augmenté. Or, il va de même des opportunités pour un progrès collectif. Les notions d'équilibre et de concurrence à tous les niveaux ont été remplacées par les notions de mondialisation et d'interdépendance, notions désormais centrales pour la réalité politique contemporaine. On aura beau analyser les défis contemporains et les opportunités, on aboutira toujours à la même conclusion, à l'importance que revêtent la coopération internationale et la coordination internationale pour pouvoir contrôler les conséquences des menaces et créer, en tant que communauté universelle, les conditions nécessaires pour un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. L'Union européenne est un exemple probant. Jamais notre continent n'aura été aussi proche de l'idée de la paix kantienne. Cette expérience historique sans précédent de l'intégration européenne constitue aujourd'hui un exemple quant aux avantages de la coopération internationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, alors que le multilatéralisme occupe à nouveau le devant de la scène et que de nouvelles dynamiques émergent progressivement, tant au niveau économique que politique, nos sociétés exigent que nous luttions contre la dérégulation, que nous assurions à un point de référence commun qui encourage la promotion de l'action commune. La multipolarité émergente doit être régie par des règles. Nous devons tirer les leçons utiles du passé. Un grand penseur français, qui est passé par cette académie, disait que lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Dans le passé, les systèmes multipolaires ont exclusivement axé leur sécurité sur la concurrence des puissances. Je pense que la Première et la Seconde Guerre mondiale suffisent pour refuter une fois pour toutes cette doctrine. Aujourd'hui, nous en savons plus. Nous savons que la sécurité comporte plusieurs facettes et qu'elle ne dépend pas seulement de la puissance. Prenons par exemple la crise financière mondiale qui affecte malheureusement toutes les économies du monde aujourd'hui. La récession économique à laquelle nous sommes confrontés a incontestablement un impact politique et influe sur la prise de décision au niveau international. Elle a aussi un impact négatif sur la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Or, en toute crise grave, il y a deux lectures possibles. L'une, ce qui veut être la doctrine prépondérante, soutient que les retombées quasi inévitables d'une crise d'une telle ampleur seraient la montée des tensions entre États et le repli sur soi au détriment de la coopération internationale. L'autre, dont je suis l'adepte, soutient au contraire que bien que nul ignore les difficultés et les retombées potentielles d'une telle crise, cette même crise pourrait être vue aussi comme une occasion d'approcher différemment les relations internationales. Sous cette dernière hypothèse, les pays auraient agi avec plus de modestie et le monde politique aurait adopté une approche plus pragmatique et opté plutôt pour une coopération accrue que pour les replis sur soi et l'isolement. Aujourd'hui, une évidence s'impose. Les défis mondiaux exigent une approche collective. Notre sécurité dépend moins de la puissance de chacun, mais du pouvoir multiplicateur de notre coopération. Notre sécurité dépend de l'établissement des liens centripètes, puissants sur la base de principes communs. Mesdames et messieurs, Le système international, quel que soit le nombre de pôles de puissance qui déterminent sa structure, requiert le consensus sur un cadre de principes et de valeurs. Un cadre qui limitera l'impact de la concurrence interétatique et promouvera la coopération internationale en vue de relever les défis communs. Quels pourraient être ces principes? L'attachement, bien sûr, aux idéaux de la liberté et de la démocratie serait certainement l'un des principes fondamentaux. Je suis certaine que nous tous, dans cette salle, partageons la conviction que les citoyens ne pourront aspirer à la prospérité et au progrès, tant au niveau individuel que collectif, que si les conditions qui s'assureront la liberté de pensée et d'expression, la protection des droits de l'homme et de l'égalité devant la loi sont réunies. Au niveau national, l'importance que nous devons accorder à la promotion de la cohésion sociale passe au premier plan. Une cohésion sociale qui ne serait pas seulement assurée par les aides étatiques et des subventions. Je me réfère à une véritable cohésion sociale qui serait assurée une fois que les citoyens auront accès à l'emploi et une éducation de qualité et qu'ils auront des opportunités pour développer leur créativité, pour promouvoir un sens collectif sincère, se faisant leur progrès personnel. Au niveau de la politique internationale, la coopération internationale est plus qu'indispensable afin de lutter contre les problèmes majeurs liés au sous-développement, à la pauvreté, à la famine, aux maladies et bien entendu à la dégradation de l'environnement, des problèmes auxquels sont confrontés de nombreux États dans le monde. Aucun État, quel que soit son niveau de développement, ne peut être indifférent à ces problèmes. Leur impact est ressenti par tous. La diffusion des avantages du développement dans le monde entier, la répartition plus égale des richesses mondiales, doit faire partie de nos priorités par excellence. Certes, l'attachement à des principes tels que le non-recours à la violence, le règlement pacifique des différends, les relations de bon voisinage, les conditions évidentes pour assurer la paix et les meilleures perspectives de prospérité revêtent une importance particulière pour l'équilibre et la stabilité de l'environnement international. La citation de Thucydide attribue aux Athéniens dans le dialogue entre Athéniens et Miliens « Le fort fait ce qui est en son pouvoir et le faible » recule au point que lui est imposé par sa faiblesse, n'est pas aussi évidente dans un environnement où l'importance des facteurs de puissance change constamment et crée sans cesse de nouvelles données et priorités. Dans un monde aussi volatile que le monde actuel, le droit international sera toujours la boussole qui nous guidera vers la paix. Mesdames et messieurs, ces principes que je viens de mentionner constituent notamment la pierre angulaire de la politique étrangère de mon pays, la Grèce. Si nous sommes un pays petit en taille, il ne demeure pas moins que nous suivons avec constance une politique de valeurs qui fait de nous un facteur de fiabilité avec une contribution positive à toutes les grandes questions préoccupant la communauté internationale. La géographie et l'histoire confèrent à la Grèce toutes les conditions nécessaires pour devenir un véritable carrefour. Un carrefour de civilisation, de langue, de religion, des idées. Nous avons établi des liens forts, des relations étroites de compréhension et de coopération avec des pays de notre voisinage, mais aussi avec des peuples dans le monde entier. Nous avons construit des ponts vers le nord et le sud, l'est et le ouest. Et nous n'oublierons pas l'avantage qu'offre à notre parti sa puissante diaspora, toujours bien intégrée à cette terre d'accueil, mais dont l'attachement reste si vivace à sa patrie d'origine et de ce fait son influence si forte auprès de celle-ci. Nous percevons par conséquent le rôle international de notre pays. Nous fondons notre politique sur le respect du droit international, l'aspiration à la paix, à la sécurité et au développement. Nous aspirons au renforcement de politiques et d'actions produisant une part du développement et de paix pour tous. La Grèce est aujourd'hui présente dans les efforts consentis par la communauté internationale en faveur de la paix et de la sécurité dans les régions allant du Kosovo à la Bosnie et jusqu'au Caucase, en passant par le Sahara occidental, l'Érythrée, l'Éthiopie et le Soudan. Dans les efforts déployés en vue de lutter contre le terrorisme international dans le Golfe Persique et en Méditerranée, mais aussi dans la mission internationale de la lutte contre la piraterie en Somalie. Nous sommes présents au Moyen-Orient en valorisant les relations d'estime et de respect avec tous les peuples de la région. Nous sommes présents en Afghanistan et aidant à la reconstruction du pays. Grâce à notre aide humanitaire et à notre aide au développement, nous sommes présents dans plusieurs endroits du monde frappés par les catastrophes naturelles, le sous-développement et la famine. Dans cet esprit, nous valorisons les opportunités qui nous confèrent d'importantes obligations internationales que nous assumons comme la présidence actuelle grecque de l'OSCE, une organisation qui peut devenir un espace de dialogue particulièrement utile pour l'instauration de la sécurité en Europe, la gestion des crises dans son vaste domaine territorial d'action et la coopération entre les acteurs puissants de la scène internationale comme les États-Unis, l'Union européenne et la Russie. En même temps, comme nous sommes convaincus que le projet européen est une expérience particulièrement réussie, qui applique tous ces principes et valeurs nécessaires à la stabilité du système international, nous faisons partie du noyau dur de la nouvelle architecture européenne et œuvrons en faveur de l'avenir du projet d'intégration. Nous coopérons toujours étroitement avec la France en vue de réaliser cet objectif. Il est vrai, nous avons encore du chemin à parcourir pour que l'Europe puisse assumer un rôle de leader sur la scène internationale. Mais une chose est sûre, si l'Europe veut, elle peut. À preuve, la présidence française réussit et son intervention décisive dans la crise récente en Géorgie. En outre, il est clair pour la Grèce que son voisinage géographique participe à cet avenir européen de sécurité et du développement. C'est pourquoi nous soutenons fermement les perspectives européennes de nos voisins sur la base du principe à pleine adaptation aux valeurs européennes, pleine adhésion à la famille européenne. Notre objectif est d'élargir la présence internationale de notre pays en tant que puissance de sécurité et de stabilité, en tant que facteur régional fiable chargé de promouvoir la paix et de contribuer à l'instauration de la coopération et de la solidarité sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, membres distingués de l'Académie, la société internationale, aussi désordonnée qu'elle puisse paraître, dans le sens où il n'existe pas la puissance mondiale qui la dirige, est loin d'être anarchique et dépourvue des règles. Il existe un cadre important de principes et de valeurs décrivant le comportement international acceptable et activant les mécanismes collectifs lorsque les principes sont enfreints. Notre travail à tous, hommes et femmes politiques, scientifiques, citoyens, dans la mesure de nos possibilités, est de redoubler de vigilance pour pouvoir défendre ce cadre de valeurs et promouvoir un dialogue fertile en vue de renforcer et de le valoriser aussi bien au niveau national qu'international. Je suis certaine qu'il n'est pas d'enceinte plus adéquate à ce dialogue que les académies comme la nôtre, qui depuis des siècles constituent un espace de réflexion et d'échange entre les représentants les plus importants de l'esprit européen. J'aimerais réitérer combien je suis honorée de me trouver parmi vous aujourd'hui et vous assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à l'auteur de cet honneur. À cet honneur s'ajoute, comme j'ai déjà dit, une très forte émotion. La France tient en effet une place privilégiée dans mon cœur. Je me suis retrouvée dans ce pays à une époque très difficile pour ma famille et pour moi-même. En dépit des incertitudes, mais aussi de la tristesse et de la peur que nous ressentions face aux événements qui se produisaient alors dans notre patrie, je me rappelle ces années avec une très grande nostalgie. Des années riches, car des années de rencontres. De rencontres avec un mode de vie et de pensée français qui m'ont accompagné tout le restant de ma vie, sans lesquels je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. La tolérance, le respect de l'autre, l'attachement cartésien à la force de la raison, mais aussi le sens de la beauté et l'amour des mots, dans un pays qui, je ne saurais ne pas le mentionner dans ce bâtiment, a produit une des plus belles littératures du monde. Venue à l'époque en France, en tant qu'exilée, j'ai trouvé une seconde patrie, une patrie des idées, une patrie que je n'ai jamais vraiment quittée. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie qui accueillait Madame Dora Bakoyannis comme membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques. C'était le lundi 9 mars sous la coupole de l'Institut de France.